Ovior.
Fjord.
Ovior.
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 Ovior. Ovior.
Qu'est-ce que c'est ? Une série de podcasts proposés par les pages Vior. Le Vior est une rivière de 163 km qui circule en Aveyron, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne.
Le Vior, c'est à moi.
Non. Le Vior, qu'est-ce que ça représente ? Ben, c'est la rivière que j'ai toujours vue couler. Mais je le voyais tous les jours, le Vior, quand j'allais garder les vaches.
Ce sixième épisode est un peu particulier. Il fera la part belle aux souvenirs des habitantes et habitants du Vior. Vous y entendrez deux membres du bureau de l'association Vior Vivant, Thierry Couette, historien, et Monique Cast, ancienne maire de Jouvielle. Vous retrouverez aussi Gérard Briane, enseignant à Toulouse sur les paysages et la biodiversité, et l'écrivain Michel Lombard. Tous deux ont contribué au livre Vior Sauvage que nous vous recommandons. Vous entendrez aussi Gabriel du Pont de Sirou, Jean-Claude et Georges du Viaduc du Vior, des randonneuses Isabelle et Noémie. Et puis, vous retrouverez pour celles et ceux qui le connaissaient, Robert Marty dit Paden, un écrivain et conteur humoriste décédé en 2021. Vous aurez le plaisir de l'entendre parler en occitan. Mais tout de suite, écoutons un extrait de La Voix de l'Or de Jean Boudou.
Autrefois, il y avait des fées en Rouergue, des fées rousses au teint de lait qui vivaient dans les rochers des pentes du Vior. De Ségur à Laguépy, les gens d'ici les connaissaient et les aimaient, et on dit même qu'ils les adoraient. Entre chaque pierre, entre chaque petit caillou, brillaient et scintillaient de fines aiguilles dorées. Et l'été, quand les eaux étaient basses, toutes ces pierres brillaient de tout leur feu. Le Vior était la voie de l'or. Via Aurea, pour parler comme les Romains. D'où venait cet or ? Mon grand-père me disait que tout cet or venait des fées. Tout cela n'est que radotage, me direz-vous. Mais pourtant, depuis que les fées sont parties dans les rapides caillouteux du Vior, aucune aiguille d'or n'étincelle plus. Les fées sont parties.
Le monde dit au bien, il passe l'article, comme en occitan, jamais.
Mais bien. Les gens disent Vior.
Bien.
Il n'y a pas d'article en occitan.
Quand tu dis bien, à tout dit.
Quand tu dis Vior, tu as tout dit.
Bien ou bien fera. Et un personnage qui est présent tout le temps.
C'est un personnage présent tout le temps.
Des bien, il y a tant de fumes, des galanes dans l'autre côté. À qui bien, les montagnes. J'aimerais un rire que service pas à res.
Il ne sert à rien, au moins à rien d'officiel.
Simplement à fabriquer des sommes.
Simplement à fabriquer des rêves. Ou des cauchemars. Pour les habitants de ce pays.
Jeunesse bio.
Le Vior est un être vivant. Un être indépendant.
Et jeunesse est essentiel.
Un être essentiel au pays.
Des ponts et des bacs.
Sur le Vior, il y a deux ponts du diable. C'est une richesse qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a celui de Jouquevielle et Bon-Rébar qui est complètement écroulé, qui est dans le Vior. Et il y a celui de Bonnecombe qui est toujours dressé à l'entrée de l'abbaye. Ils étaient construits dans des lieux qui étaient quand même très pentus, très arides. Et c'était très difficile d'arriver à la fin. C'était un exploit technique d'ailleurs. Hein. Parce que quand on voit le pont du diable de Bonnecombe, le Vior est quand même en contrebas. Et il a fallu faire des échafaudages sûrement très importants. Et là, les entrepreneurs faisaient appel au diable pour venir à leur secours. Les histoires du pont du diable, c'est tout, partout la même. Quoi. Le diable veut bien le faire, mais à condition que le premier passager puisse prendre son âme. Il y a un curé qui était un peu futé. Il avait pris sous sa soutane un chat. Et quand le diable a eu terminé le pont, le diable était d'un côté, les autorités avec le curé étaient de l'autre. Le curé a libéré le chat. Ils ont foutu à ses trousses un chien. Et le diable s'est trouvé complètement imbécile, puisqu'il n'a pu prendre que l'âme du chat, à condition que le chat ait une âme. Mais le pont est resté debout.
À la fin du 18e, il s'est effondré. Il y a eu de très grosses inondations dans les années 1770, mais vraiment de très très grosses crues. Il était déjà en mauvais état, ça l'a achevé, il s'est effondré avant la Révolution. Si l'axe Albi-Villefranche avait continué à passer par ici, il est probable qu'il y aurait encore quelques maisons ici. Le pont de Cirou, c'est pareil. Le pont de Cirou, il a décliné parce que Tanus l'a remplacé.
Le pont de Cirou, ça a une belle histoire. À l'époque, c'était la route qui venait d'Albi, Rodez, ça passait là. Et le pont de Cirou, c'était le relais des chevaux, parce que tout se faisait à cheval, quoi, par les chariots. Ils passaient là, et au pont de Cirou, à côté du pont, il y avait des relais, des restaurants, les gens ils s'arrêtaient là, ils faisaient reposer les chevaux, et puis après ils repartaient, des fois ils passaient la nuit. Ça a une belle histoire, le pont de Cirou, ancienne. C'était un endroit où ça a beaucoup vécu. Le milieu du pont, vous mettez une jambe là, l'autre jambe devant, et vous êtes dans le Tarn, dans l'Aveyron. Ça se partage, le département, au milieu du pont. De l'autre côté du pont, c'est déjà l'Aveyron, c'est Crespin, c'est tout ça.
Voilà, c'est ça le Vior pour moi, c'est tous ces souvenirs. Moi, je suis née ici, vous vous rendez compte, dans cette maison.
Tout simplement, le Vior, c'est le chemin de l'eau. Voilà. Le Vior est le chemin de l'eau.
Enfin, je ne sais pas trop le Vior. Je vous dis, ça a été une frontière. Ma grand-mère maternelle était de l'Escure Jaoul, du moulin de Carrier de l'Escure Jaoul. Et ma mère, pour aller voir ses grands-parents, partait dans les travers du Vior, là, allait jusqu'à la Soulaillier et un bac la faisait traverser pour aller revoir ses grands-parents côté Aveyron. Mais tout ça à pied. C'est 5 heures de marche, hein, quand même. Et puis, c'est pas tout plat. Hein. Quand elle arrivait à mi-parcours, elle appelait le monsieur qui était bien en dessus, elle l'appelait et il descendait pour la traverser.
La pêche dans le Vior.
Mon mari aimait beaucoup la pêche. Et quand il avait le repos, quand il n'était pas de nuit, et parce que mon mari, à Carmo, il travaillait à la coquerie. À l'âge de 14 ans, il est rentré à la mine. Le dimanche, on allait pêcher, le pique-niquer, on allait pêcher, pas tous les dimanches, nous, mais lui, oui. Et il allait pêcher au Vior. Et alors, des fritures de gardon, des perches, des truites, et il y en a eu. Et bon, il me montait tout ça. Moi, je triais, je couvais, je préparais tout, je mettais tout ça dans les frais. Puis après, quand la famille venait, les enfants venaient, et bien on faisait des fritures. C'était magnifique. Et beaucoup, il y avait beaucoup de mineurs qui pêchaient à ce moment-là, oui.
Donc l'été, quand il n'y avait pas de lune, il partait. Alors je vais donner le nom en patois parce que je ne le connais pas en français, à la luminade. Alors il partait en groupe, les hommes, et il prenait des fourchettes, comme une fourchette mais plus large, Ils avaient un manche, hein, tout simplement. Il fallait tenir dans le vior, tenir debout, avec votre lampe à carbure pour éclairer. Et avec l'autre main, il fallait repérer le poisson et le taper. Il fallait être habile, je suppose, hein, pour pêcher à la fourchette. Je ne sais pas combien de kilos ils pouvaient remonter, mais c'était énorme. Hein. Alors, ils y allaient deux ou trois fois l'été, mais pas plus. Pas plus.
Là, par contre, n'était pas interdit d'autrefois. Ils allaient passer les filets le soir. À travers de la rivière, et le matin, à 5 heures ou avant, ils allaient vite les enlever.
Au 19e siècle, ils en avaient marre, les ouvriers. Il y avait marqué dans certains contrats, ne nous donnez pas du saumon plus de 3 fois par semaine, tellement ils avaient marre de bouffer du saumon. Et le saumon, il y en a très bien longtemps qu'on n'en a pas revu dans le vieux. Ils l'ont introduit dans les années 80, mais ça n'a pas marché. Ils ont introduit les tacons. Et moi, je me rappelle, moi, le frère de mon papa, et comme il habitait au bord du fjord, il mettait des pièges pour pêcher les poissons. Il chopait des anguilles en quantité. On en avait marre de manger de l'anguille, tellement il y en avait. Et maintenant, les anguilles, il y en a quasiment... Je crois qu'elles ont disparu.
Hein. Ça, c'était délicieux, hein, les anguilles. Hein.
Il y avait de grosses carpes, je me rappelle, dans la partie, justement, là, ici, des gorges du fjord. Il y avait des chevennes, il y avait des barbeaux. Pareil, il y avait des écrevisses
à pâte
blanche. Maintenant, il y a des écrevisses américaines. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça fait un peu négatif tout ça. Mais bon, c'est aussi la réalité des choses, malheureusement.
Quand je suis arrivé, il y avait du poisson. Mais le vieur a été, du point de vue poisson, il a été massacré par la vidange du barrage de Turiès en 85. Et il ne s'en est jamais remis. Plus des évolutions globales qui font qu'on va vers une extinction des poissons, parce qu'il n'y a plus d'insectes, ou très peu. Donc, comme ils se nourrissent en partie d'insectes, ils n'ont plus à manger.
Les truites, ils sont obligés de les mettre une semaine avant l'ouverture pour amuser les pêcheurs, mais c'est tout. Je pense que c'est dû à la qualité des eaux, hein, tout simplement. Quand on entendait le vior d'ici, c'est que vraiment le vior était gros, il y avait eu un gros orage. Ça, on l'entendait, on l'entend.
Bain et baignade dans le vior.
Le mari, il prenait le bloc de savon et la serviette sur le dos, il descendait à la rivière et il allait se doucher là, se laver là. Et les enfants, c'était l'été, c'était tous les jours, quoi. Et ils sautaient du pont, les plus âgés. Et tout ça, on le voyait de la maison, quoi, puisque nous, on domine tout, là. Et ça criait, ça s'amusait, ça rigolait, ça chantait. Pouh ! Ils s'amusaient, les enfants. Oh,
il y avait un sentier qui descendait, on allait se baigner en bas, au vieux. Il y avait deux cafés-restaurants en bas, aussi, au bord du vieux, là-bas. Donc, si vous vouliez aller boire un coup en bas ou manger, il y avait deux cafés en bas, ouais, qui sont sous le viaduc. Et ceux qui avaient des voitures, ils venaient par la route, des fois, ils venaient passer l'après-midi au bord du vior, ouais, quand il faisait beau l'été.
Après, plus tard, quand nous avons eu la mobilette pour aller au bord du vior, oui, se baigner. Soit à la roque, soit au pont de la Bicasse. Mais voilà, il fallait qu'il y ait la route pour aller se baigner au vior.
Les paysages du Vior.
Il
Moi, j'aime beaucoup ces descentes là, le long de assez escarpées. Ce que j'aime aussi dans la descente, c'est suivant les virages du sentier, on entend l'eau, puis on n'entend plus rien, on n'entend plus l'eau. Puis d'un seul coup, des vrombissements d'insectes, de nouveau l'eau, la rivière. Bon, à chaque fois que je passe dans ce genre de paysage, je me demande, voilà, si quelqu'un de 1850 arrivait, je me dis toujours, qu'est-ce qu'il penserait de tout le travail qu'il a accompli et qu'on a laissé péricliter, on a laissé transformer le paysage. Nous, on est très contents de pouvoir se promener là, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce travail qui a existé en notre passage.
J'ai connu tous les coteaux des Infournas où il y avait encore des vignes, des pêchers, des figuiers et des fraises. Un espalier que l'on ne voit plus aujourd'hui. Alors ici, on parlait de vignes. Si vous alliez du côté de la Garoufier, de la Roque, eux, ils vous parleraient de vergers, de pommiers. C'était un verger là-bas. Ils avaient beaucoup de pommes.
On est mangé par la végétation.
On est mangé par la végétation.
Ça se passe une chose curieuse.
Il s'est passé une chose curieuse.
Normalement, avant, era le fond de la zone.
Normalement, avant, c'était le fond des vallées qui était cultivé.
Cultivate. Et dessus.
Et dessus, la terre ferme était tellement maigre. Après, la chaux est arrivée avec le viaduc.
Le pont de fer, comme disait mon pépé.
Ils amenèrent la chaux. Et cela améliora la terre sur le dessus.
Et la civilisation,
et les habitations, la civilisation entre guillemets, sont montées sur le plateau.
C'était un lieu relativement inaccessible. Parce que tous les chemins forestiers, tous les chemins de rando que l'on voit à l'heure actuelle, n'existaient pas. Il faut savoir que la route des Infournas, de l'Ouradou aux Infournas, n'existe que depuis 1969. Et les chemins forestiers n'existent que depuis 1980, quand les propriétaires ont créé des groupements forestiers pour planter des sapins. Enfin, moi, je dis du sapin d'une manière générale, mais c'était une aberration. Mais au moins aujourd'hui, il reste ces chemins de randonnée qui nous permettent d'aller au Vior, au Pont du Diable, à la chaussée de la Soleillerie. Voilà, ça n'existait pas.
Moi, je me rappelle très bien les premières plantations, effectivement, c'était les années 75-76, donc où on a commencé à vraiment transformer la vallée du Vior, parce que c'était que des feuillus, et après on a planté ces résineux. C'est les communes qui se sont regroupées entre elles, donc qui ont bénéficié du Fonds forestier national, donc d'aide de l'État, hein. C'est l'État qui a encouragé finalement ça, qui a permis de racheter des parcelles privées, donc de les regrouper pour avoir des surfaces quand même un peu conséquentes. Bon, le problème aujourd'hui, effectivement, par rapport à ces résineux, bon, c'est que là aussi, ils souffrent de la sécheresse. Donc, il y a plein de résineux. On en voit un là qui est en train de roussir, mais il y en a plein quand on regarde un peu plus là, derrière la chapelle des Infournas. On voit plein d'arbres secs. Donc, pareil, encore plus que le châtaignier, puisque c'est souvent des résineux qui ne sont pas du tout locaux, qui sont exotiques. Notamment, on a planté beaucoup le sapin de Douglas, qui vient d'Amérique du Nord, qui a besoin d'un climat plutôt humide. Donc, il a du mal à supporter les sécheresses. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas trop comment même exploiter ces plantations, parce que aujourd'hui, les moyens d'exploitation, ça demande des routes d'accès assez larges. Et là, quand on voit les pentes, etc., ça voudrait dire qu'il faudrait refaire des accès pour exploiter, donc redéfigurer le paysage, parce que c'est vrai que quand ils ont tracé les routes d'accès, c'était, bon, maintenant on ne le voit pas parce que la végétation poussait, mais ça marquait vraiment le paysage. Hein. On voyait des lanières donc, qui transfiguraient le paysage. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, ils ont toujours récolté des châtaignes, bon, essentiellement pour les vendre. Alors au départ c'était à la Guépie, à Villefranche de Rouergue, là où il y avait des marchés. Et puis là maintenant, depuis quelques années, il n'y a plus de marché local, donc les châtaignes, c'est mon frère là. Il va les vendre au marché Gare à Toulouse. Mais les châtaigniers, bon, vous allez le voir tout à l'heure si on descend un peu plus, ils souffrent beaucoup depuis ces dernières années, là, parce qu'on est exposé plein sud. Vous voyez, c'est très pentu, c'est des terroirs assez maigres, donc très vite la roche affleure, les schistes affleurent. Et donc avec les coups de chaleur qui fait ces dernières années, les sécheresses, etc., des arbres qui avaient 150 ans, donc il y en avait quand même vu d'autres, ils sont morts. Ils sont morts littéralement en 2 ou 3 ans. Et on voit que ceux qui sont encore là, ils souffrent.
Maman Irmelio comptait à peu près la mitaine.
Ma mère me disait qu'elle comptait les châtaigniers. Était rassurée si à la moitié de l'année, on en avait encore assez.
Elle est partie sur l'école, mais... Une poignée tout d'eau.
Je partais à l'école avec une poignée ou deux de châtaignes sèches dans la poche. Ça faisait la journée. Et il y avait aussi la soupe aux châtaignes. Et rien de plus.
Quand les châtaigniers meurent, qu'ils ne sont plus entretenus, en fait, il y a plein de rejets, donc ça fait du taillis, ce n'est plus vraiment un verger. Et donc il y a moins d'ouverture, il y a moins d'espèces dans le sous-bois. Et ce n'est pas les mêmes espèces qu'on va trouver. Quand c'est du jeune taillis, donc quand les arbres ont été coupés, qui sont repartis en rejet, il n'y a pas des vieux arbres creux, donc il va y avoir des chauves-souris, des genettes, un peu, toute une faune particulière qui s'abrite dans ces châtaigneraies. Donc ce n'est pas les mêmes espèces qu'on va trouver. Quand on replante des résineux, évidemment, on ne va pas trouver les mêmes espèces non plus.
Banjo, viens. Banjo, viens là.
La biodiversité dans le Vior.
Nous, ce qu'on a, c'est les oiseaux. C'est beau. Vous mettez devant la porte, et vous avez les pigeons, et vous avez le pivert, et vous avez le machin. Et une fois derrière la maison, la terrasse, on avait tout le mur de l'église à droite, là. Et puis c'était noir d'hirondelles. Et mon mari m'avait appelé, il m'a dit, viens voir, viens voir. On avait pris des photos. Elles étaient là et elles se sont agrippées aux pierres de l'église parce qu'il y avait de la chaux, ils s'agrippent là. Ils sont restés une journée et le lendemain, elles sont parties.
Bon, ici, il y avait beaucoup d'hirondelles et les hirondelles, ça commence à devenir... Un oiseau relativement rare. Hein. Moi, je vois dans les vieux bâtiments là, de la ferme, il y a plein de nids d'hirondelles. Il y avait à peu près une dizaine de nids d'hirondelles. Maintenant, il n'y en a plus aucune. Je crois qu'au niveau de la France, on estime que les hirondelles ont baissé de 45% depuis 2000.
Et après, on a eu beaucoup le bruit des abeilles. Vous ne pouvez pas vous imaginer les abeilles qu'on a eues. On a eu des kilos et des kilos de miel entre les poutres, au-dessus du plafond de la salle à manger et le sol des chambres. Et depuis, chaque année, on a eu des abeilles. Et on appelait les apiculteurs. Ils nous avaient dit que là, le pont de sirop, ce côté chez nous, c'était là où elles passaient depuis des décennies. Et elle ne changeait pas le tracé. Au pont de sirop, quand on se met dehors, on a toujours des bruits. Toujours, toujours, toujours.
Alors ça a changé là aussi, parce qu'il n'y a pas les mêmes espèces qu'il y avait avant et qu'il y a aujourd'hui. Donc hier, c'est-à-dire il y a 40 ans, il y avait beaucoup d'oiseaux, notamment des perdreaux, des cailles, donc qui étaient quand même liés au bocage, c'est-à-dire un milieu où il y avait à la fois des cultures, du pâturage, de la vigne, etc. Et aujourd'hui, ce milieu, il a disparu et ces oiseaux, ils ont disparu aussi. Il y avait autrefois beaucoup plus de serpents qu'aujourd'hui. Il y avait des vipères, il y avait des couleuvres de vertes et jaunes, des couleuvres de Montpellier, des couleuvres d'esculape, plein d'espèces, des orvets. C'est un petit lézard, mais sans pattes. Et il n'y en a plus du tout. Alors, il reste quelques couleuvres, mais beaucoup moins qu'avant. On voit un appauvrissement de la biodiversité en général. C'est pareil pour les batraciens. Il y avait beaucoup de salamandres. Moi, j'allais à l'école à bord, donc à pied. Et tous les matins, quand je partais à l'école, je croisais des salamandres. Là, maintenant, il n'y en a plus du tout non plus. Par contre, il y avait beaucoup moins de gros gibier qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, des sangliers. Je me rappelle, pareil, quand j'étais gamin, quand il y avait un sanglier, c'était l'événement, on en parlait pendant 15 jours ou un mois. Le sanglier est passé, il faut aller voir où c'est qu'il est passé, etc. Maintenant, bon, le sanglier, il y en a beaucoup. Et puis le chevreuil. Le chevreuil, il n'y en avait pas du tout quand j'étais gamin. Et maintenant, il y en a des quantités de chevreuils. Alors ça, c'est lié sans doute au plan de chasse, aux introductions de gibier, qui fait que les choses ont changé.
On s'est retourné sur un bruit assez étrange. Et il s'agissait d'un grillon ou d'une cigale, non, une sauterelle, bon, on ne sait pas, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il lui manquait une partie de son corps et elle traînait sa carapace péniblement, minablement, mais en même temps royalement.
Et le bruit, c'est quel fond, quelle musique permanente des viandes qui se présentent.
Et le bruit de fond, c'est la musique permanente du vieux qui est présente. Je pense que dans la vie, on ne l'entend pas. C'est à toi d'écouter.
C'est que nous passons.
Sinon, elle passe sans faire de bruit. Un peu comme la vie.
Au regard des différents constats, les élus du territoire se sont mobilisés dès les années 2000 pour ensemble tenter d'enrayer le déclin de la biodiversité et de la qualité de nos cours d'eau. C'est ainsi qu'est né l'Épage Vior, qui n'a cessé d'évoluer et de grandir. Aujourd'hui, une équipe de 15 personnes est entièrement dédiée à la gestion des cours d'eau du bassin versant du Vior. Nous notons déjà des améliorations, mais il faudra beaucoup d'énergie et de temps pour, si cela est possible, retrouver les rivières d'antan.
C'était au Vior. Les habitants vous racontent leur Vior. Merci à Gérard Briane, Monique Cast, Thierry Couette, Michel Lombard, Robert Marty dit Baden, qui était au micro de Myriam Brass, Gabriel, Isabelle, Noémie, Jean-Claude et Georges. Merci à Laurence Crémière et Noémie Auffray pour leur participation aux enregistrements, mais aussi et surtout pour leurs écoutes. Extrait de La Voix de l'Or, conte de Jean Boudou, édition du Rouergue, lu par Antoine Vial. Une série proposée par L'Épage Vior, production Partage de Voix, réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton, musique Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de L'Épage Vior et si vous venez par ici, prévoyez une randonnée sur les bords du Vior.